Chapitre 10e, le secret des enveloppes. Ayant savouré et engourmé sa cigarette, Martin Humeur reprit les lettres. « Avez-vous, dit-il, remarqué que l'écriture de la suscription des lettres n'est pas la même ?»«
Oui, j'ai fait cette remarque. »«
Bien, mais vous n'avez pas vu sans doute que ces suscriptions ont été écrites sur le même bureau.
Comment le voir ?»«
Ce sont les suscriptions elles-mêmes qui me le disent.
Les suscriptions.
Elles ont été écrites avec la même encre, la même plume. »
Mais toutes les encres se ressemblent, et la différence entre les plumes n'est pas si grande qu'on puisse établir une distinction.
Erreur. Chaque encre, chaque plume a ses qualités, ses défauts propres, qui lui font en quelque sorte une personnalité pour des yeux scrutateurs,
ceux qui ont l'habitude plutôt de ces observations minutieuses.
Ici, vous voyez? Ces adresses ont été écrites non pas avec de l'encre de stylographe, mais avec de l'encre violette d'un encrier de bureau. Cette encre est à l'aniline, or cette encre a un défaut, qui est une qualité, paraît-il, chez le chocolat, elle blanchit en vieillissant. C'est-à-dire qu'à la lumière, comme toutes les teintures à base d'aniline, elle perd de son coloris. Le soleil, disent les braves gens, la mange. Cette encre, qu'on emploie ici, doit séjourner depuis très longtemps dans l'encrier, et ne pas servir souvent. Elle est devenue grasse, huileuse, elle perle, et n'a plus sa couleur franche, très jolie à l'œil. Vous voyez comme les lignes sont pâles. En revanche, remarquez qu'au commencement de l'adresse, le M de monsieur, puis les deux chiffres des numéros de la rue et le P de Passy, sont gros, colorés, tristes, semblent tracés avec une autre encre.
C'est vrai.
Je vous disais que cette encre perlait. Elle ne tient pas après la plume, elle glisse et dépose dès que la plume touche au papier. De plus, comme l'encre forme dans l'écritoire une sorte de voile dichroïque qui s'étale à la surface comme une pellicule irisée, chaque fois que la plume trempe dans l'encre, elle prend un peu de cette pellicule. Elle étend ensuite sur le papier dès le commencement du mot. Il ne reste plus ensuite que de l'eau légèrement teintée.
Oui, c'est bien cela.
Je vous disais que la plume qui a servi à écrire ces adresses était la même. Cela se reconnaît au trait. C'est une plume fine, à bec pointu, qui a peu servi, n'est pas émoussée, n'est pas flexible, et n'a pas une pointe ronde ou oblique, mais toujours adoucie par un bout en iridium, comme les plumes en or des stylos. Voyez-vous, chaque fois qu'on la conduit en haut pour commencer une lettre majuscule, elle gratte, elle accroche. Et à la fin du mot, elle garde des barbes de papier et fait des bavures. Que la main qui la conduit ne soit pas la même, que l'écriture soit différente, les caractéristiques de la plume la font facilement reconnaître. Le chevalier se déclara émerveillé de ce talent d'observation. Tout à coup, Martin Humeur, qui continuait à regarder les enveloppes, s'écria « Voici qui est curieux.
Quoi donc ?
Ces enveloppes sont cachetées et affranchies à 50 centimes. »«
C'est ma foi vrai,
dit le chevalier. Nous ne l'avions pas encore remarqué. C'est donc qu'on me les adressait comme lettres, non comme imprimées. Elles doivent contenir quelque chose d'écrit,
voyons.
Les enveloppes étaient en effet collées. Le chevalier prit un coupe-papier, fit sauter un des bords de l'enveloppe. Elle contenait une feuille de papier à lettres de deuil. Mais sur cette feuille, quand le chevalier la déplia, on ne vit rien d'imprimé, rien d'écrit.
C'est étrange, fit le chevalier surpris.
Martin Humeur ne répondit rien. Le chevalier ouvrit une seconde enveloppe. Elle contenait la même feuille de papier bordée de noir, mais de même que la première, aucun écrit, aucune trace d'imprimé.
« Les autres doivent être sur le même modèle, » fit Martin Humeur.
« Alors, que signifie ?» demanda le chevalier Fontis.
Martin Humeur, lentement, prit les lettres de faire part.
Il les retourna sur la table devant le chevalier, c'est-à-dire qu'il mit la suscription en dessous.
« Voilà, » fit-il.
Le chevalier regarda sans comprendre.
« Voilà quoi ?» demanda-t-il.
« Le signe. »
Quel signe?
La croix de Saint-André,
le X.
Le chevalier sursauta, et je tressaillis moi-même profondément. En effet, les enveloppes de deuil fermées présentaient en noir des croix de Saint-André parfaites.
C'est un avertissement, reprit Martin Humeur.
On veut vous faire entendre que la société, la bande, la mafia, qui a adopté ce signe pour emblème, vous surveille, vous épie. C'est un avis ou une menace.
Le chevalier se dressa subitement.
Eh bien? Cria-t-il, qu'ils y viennent ?
Il était magnifique d'ardeur, de vaillance.
Dans ses yeux, une lueur passa qui rappelait le scintillement des épées au soleil. « Je me suis toujours tenu, dit-il, en dehors de la politique, des combinaisons quelles qu'elles soient, des luttes d'intérêts, des envies, des jalousies. Je ne fais partie d'aucune société secrète, d'aucun comité, d'aucune association. Je donne ma part aux œuvres de bienfaisance, je secours les malheureux, je fais autant de bien qu'il m'est possible autour de moi. Je me considère donc en règle avec la charité, la fraternité, la solidarité humaine.
J'ai établi moi-même sur ma fortune un impôt pour les pauvres, pour les nécessiteux, les besogneux, les vaincus de la vie. Dans mes propriétés, dans mes usines, mes ouvriers, mes laboureurs qui contribuent à ma richesse ont leur part dans les bénéfices que je réalise. Et les vieux serviteurs, ceux qui ont loyalement consacré leur force, leur vie chez moi, chez mon père, dans notre maison, trouvent la vieillesse assurée, le repos là où ils ont peiné. « Vous êtes un chevalier socialiste ?» fit Martin Numa. « Je suis simplement humain et ne colle pas sur des actes logiques une étiquette politique qui gâte la plus simple et la plus sacrée des vertus humaines, la charité. Très bien. J'ai consacré ma vie au voyage, aux études, aux beaux-arts. Indépendant, je n'entends pas que des individus avec lesquels je ne veux pas frayer viennent s'imposer dans ma vie. C'est votre droit. J'ai toujours agi en honnête homme au grand jour. Je ne permets pas que des gens marchant dans l'ombre s'imaginent pouvoir m'entraîner à leur suite. Quels sont ces gens? Je ne les connais pas. Je ne veux pas les connaître. Quel est leur but? Je ne m'en soucie aucunement. Que veulent-ils de moi? Je l'ignore. Mais je sais bien que personne ne pourra obtenir de moi ce que je ne veux pas livrer. » Martin Numa, qui, durant cette déclaration vibrante, se tint immobile et à son habitude impassible, dit enfin au chevalier « Ce qu'ils réclament de vous, ces gens, ce qu'ils réclament, c'est sans aucun doute le silence. Le silence sur quoi? Sur ce que c'est le comte di Villacciarboli, et qu'il s'imagine que vous connaissez aussi. Qu'était-ce donc? Le fameux marquis Primo di Carmine Santucci est double. Santucci est double? Nous en avons déjà parlé vaguement. Permettez-moi de vous rappeler le fait. Je vous écoute, mon cher ami. » Le chevalier Fonti s'assit dans son grand fauteuil, prit une cigarette et se disposa à écouter le roi des détectives. Martin Numa reprit. Le comte di Villacciarboli me donna rendez-vous, vous le savez, à Vilaine. Là, dans la tonnelle, il commençait à me faire les révélations promises quand il a été interrompu brusquement par la venue d'un homme qui, sous le déguisement maladroit de garçon de café, lui fit quelques signes avec les mains. Le comte affolé tout à coup se leva, m'abandonna et s'enfuit. Vous savez le reste. Oui, hélas, l'accident d'automobile. Mais le comte di Villacciarboli avait cependant eu le temps de me dire ces mots, qui me frappèrent grandement. Le marquis Primo di Carmine Santucci est double. Santucci est double, répéta le chevalier. Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire ce mot double? Que faut-il comprendre? Le marquis di Santucci est double. Je l'ignore, je ne sais, je ne puis rien vous dire. Martin Numa posa son regard ardent sur le chevalier, cherchant à lire dans ses yeux la vérité, voulant voir s'il ne lui cachait pas quelque chose. Voyons, demanda-t-il encore. « Ne savez-vous rien sur le marquis di Carmine Santucci? Car je ne peux croire que ce mot double ait seulement un sens figuré, veuille dire uniquement hypocrite, faux, double visage. À mon avis, cela doit signifier quelque chose de plus sérieux, de plus grave. Et il demeure constant que les amis du marquis, que le marquis lui-même, ne se seraient pas ainsi acharnés après le malheureux comte di Villacciarboli, et maintenant ne le seraient pas après vous, s'il n'y avait une signification tout autre que celle de l'hypocrisie. » Le mot n'est pas en effet suffisant, mais pour ces gens, ces chenapans du poignard, tout prétexte est bon. Non, monsieur, non. Ces lettres, ces croix de Saint-André, ces signes, sont des avis, des menaces. On vous conseille, on vous ordonne de ne pas révéler ce que l'on croit que votre malheureux ami a pu vous dire. Il n'a pas eu le temps de m'apprendre. Voilà quel est mon avis, et je ne crois pas être dans l'erreur. Eh bien, mon cher Martin Numa, je regrette de ne rien savoir. Pour vous montrer combien leurs menaces, leurs signes cabalistiques, leurs avis mortuaires m'émeuvent peu, en vous disant ce que je sais. » Il se fit un silence, puis au bout d'un moment, Martin Numa demanda au chevalier « Vous possédez des vignes, n'est-ce pas, en Sicile ? En effet, j'ai un cru qui jouit de quelque réputation. Vous faites le commerce de ce vin ? Naturellement, je le vends même le plus cher possible. Vous en écoulez non seulement en Sicile, en Italie, mais aussi en France. Partout où je peux. Est-ce que parmi les acheteurs, les représentants, les entrepositaires à qui vous avez affaire, vous ne comptez pas un certain M. Bessette ? L'ami Bessette ? Dit en riant le chevalier. Lui-même, l'ami Bessette. Parbleu, je le connais, en effet, cet ami Bessette, pour l'avoir vu chez moi. Mais c'est surtout mon régisseur qui traite avec lui. L'ami Bessette, je crois bien, un brave homme. Vous continuez à traiter avec lui ? Je vous ai dit que c'était avec mon régisseur qu'il avait surtout affaire. Moi, je ne l'ai vu que très peu. Suffisamment cependant pour qu'il se déclare mon ami Bessette. Je sais cependant que l'ami Bessette était aussi l'ami Bessette chez les Carmine et Santucci.
Précisément, j'allais vous parler de cela.
Il eut affaire au père de celui-ci, au père du marquis Primo. Mais il eut le loisir de connaître le marquis Primo, cependant.
Oh, assurément.
Bien. L'ami Bessette s'est vanté d'être l'ami du marquis di Carmine Santucci, le père, et d'être allé chasser avec le marquis Primo, dont nous nous occupons.
Son ami, le marquis Primo di Carmine Santucci.
C'est très possible, en effet.
Martin Huma déclara.
Eh bien, voici ce qui est grave. Le jour où les magistrats faisaient leur enquête sur la mort du banquier Castagnier et de sa fille Irma, l'ami Bessette demanda à être entendu.
Vous vous en souvenez, Gourville?
J'étais là, en effet.
Comment cet ami Bessette, demanda le chevalier, pouvait-il se trouver mêlé à cette affaire?
L'ami Bessette était aussi l'ami du banquier Castagnier.
C'était l'ami de l'univers.
Jusqu'ici, en somme, rien de bien étonnant.
Mais où l'affaire se complique, comme dans un bon feuilleton, c'est lorsque l'ami Bessette, qui prétend avoir été l'hôte des Carmine et Santucci en Sicile, avoir chassé avec Primo, être son ami, c'est lorsque l'ami Bessette, mis en présence de son cher Primo, ne le reconnut pas.
Le chevalier sursauta.
« Vraiment ? » s'écria-t-il. « Vraiment, il n'a pas reconnu le marquis Primo di Carmine Santucci ? »
Et le marquis Primo, en retour, non seulement ne reconnaît pas l'ami Bessette, mais semble même ne l'avoir jamais vu avant ce jour néfaste.
« Pas possible.
Cela est... »«
C'est incroyable, c'est grave, c'est terrible. »
Comme le chevalier allait parler, Martin Huma étendit la main pour le prier de le laisser achever.
« C'est à cela que j'ai pensé souvent. » Depuis que le malheureux comte di Villacciarboli m'a dit
« Le marquis Primo di Carmine Santucci est double. »
Le chevalier Fontis regarda Martin Huma, puis tourna stupéfait, anxieux, les yeux de mon côté. J'avoue que j'étais fortement impressionné aussi par cette dernière déclaration de Martin Huma.
« Je pense, dit le détective, toujours calme et impassible, je pense donc que le marquis Primo di Carmine Santucci n'est pas seulement un homme à double visage,
mais qu'il a aussi un double corps. »
« Un double corps ?» fut le cri que, spontanément, ensemble, nous lançâmes, le chevalier et moi.
« Oui, messieurs, il y a deux marquis Primo di Carmine Santucci.
Que concluez-vous de cela ?»«
Je ne sais encore. Il faut savoir si vraiment il y a deux marquis Primo, et dans ce cas, savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils valent, chacun de leur côté. Il nous faut surtout savoir pourquoi personne ne sait cela, et comment il se peut faire que des gens du pays... Des Siciliens comme vous, monsieur Fontis, ne connaissent pas cette double personnalité ou ces deux personnages.